SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Nous avons le plaisir d'avoir Diane de Saint-Léger. Une petite présentation de vous-même, de ce que vous faites au sein de ce département French Studies de l'Université de Melbourne.
D'accord, oui, bonjour. Je suis donc maître de conférence dans les études de français à l'Université de Melbourne. Et puis, donc, j'enseigne la langue et la culture française à mes étudiants et aux étudiants qui viennent s'inscrire dans notre département. C'est vrai que le thème de la Première Guerre mondiale, au départ, n'est pas vraiment est en train de devenir un thème de recherche pour moi. Mais enfin, au départ, c'était vraiment une expérience pédagogique, dirons-nous, parce que j'avais découvert avec beaucoup d'intérêt et d'émerveillement les documents qui étaient aux archives de l'Université de Melbourne. Ces documents étaient des lettres, des journaux, des magazines et toutes sortes de souvenirs que les soldats australiens de la Première Guerre mondiale avaient gardés. Et au fur et à mesure du temps, les familles ont légué en fait ces documents, ces papiers aux archives. Enfin, bien sûr, il y a d'autres endroits où les Australiens peuvent faire ça. Mais disons qu'une belle petite collection était disponible sur le campus de l'université, et j'ai à partir de là décidé de développer un cours qui s'intéressait vraiment à ce moment particulier de l'histoire où il y a eu un échange fort et un échange réel entre ces milliers d'Australiens qui sont partis sur le front ouest, donc en France et puis en Belgique. Et tous des volontaires, oui. Alors bien sûr, ils partaient, ils ne savaient pas trop toujours où est-ce qu'ils allaient être envoyés. Mais disons qu'un très grand nombre d'entre eux sont partis sur le front ouest. Et cela a été pour eux l'occasion de faire l'expérience d'une autre culture, d'une autre langue, ou d'autres cultures et d'autres langues, je devrais dire quand même au pluriel, puisque certains ont déjà fait la campagne de Gallipoli avant. Donc bien sûr, des expériences de guerre très dur, très difficile, comme nous le savons tous, mais aussi il y avait un peu, si j'ose dire, le revers de la médaille ou un autre aspect dont on parle peut-être beaucoup moins et qui a motivé cette exposition, qui était de parler de l'expérience de ces soldats lorsqu'ils ne combattaient pas. Donc quand ils n'étaient pas dans les tranchées, quand ils n'étaient pas l'arme au poing, que faisaient-ils? Que faisaient-ils même tout simplement pour se divertir? C'est vrai que Première Guerre mondiale et divertissement, enfin, là non plus, on ne pense pas vraiment à ça quand on parle de ces moments historiques. Mais c'est vrai que, en fait, les moments de combat, même s'ils étaient très intenses et très violents, étaient suivis par des moments où, en fait, l'ennui était un des problèmes majeurs pour ces soldats et même pour les chefs militaires qui savaient qu'il ne fallait absolument pas... Il fallait que les soldats soient occupés afin, justement, de soutenir le moral de troupes et de ne pas laisser ruminer, si je peux dire, ces souvenirs et ces expériences qui étaient, par ailleurs, terribles. Et donc cette exposition est l'occasion de raconter ça, d'expliquer que finalement ces soldats qui arrivent sur le front ouest ne parlaient presque pas français, bien évidemment. Enfin bon, il y a toujours ceux qui avaient eu une certaine éducation et qui étaient capables de s'exprimer en français. Mais enfin, c'était vraiment une très grande minorité, dirons-nous. Et pour tous les autres, c'était vraiment négocier au jour le jour les problèmes de communication, les conflits culturels aussi, bien sûr. Ils étaient là pour défendre le territoire français, mais enfin, au jour le jour, il y a aussi des petits moments de tension ou au contraire d'harmonie et de découverte de l'autre, mais aussi et surtout de découverte de soi. C'est-à-dire que l'Australien ou les Australiens arrivent, et c'est vrai que c'est un thème qui est bien connu par les Australiens et par le public en général maintenant, du fait du centenaire et des diverses expositions et informations qui ont été données. Mais enfin, c'est vraiment l'occasion pour les Australiens de dire mais nous ne sommes pas britanniques, et bon, bien sûr, ils ne sont pas français non plus, mais de se poser comme autres et comme différents. Et c'est ça aussi qui est absolument fascinant dans ce travail d'archives que nous avons fait et que j'avais amorcé depuis donc 4 ans avec mes élèves.
Donc ça a démarré en 2012.
Voilà, c'est ça. Ça a démarré en 2012, mais enfin, disons que le projet était beaucoup moins ambitieux au départ et puis un petit peu donc expérimental, comme je l'expliquais, puisque je demandais à mes élèves de travailler, de sélectionner des documents d'archives qui les intéressaient. Alors, il y avait bien sûr tout un travail en amont, mais de sélectionner un document d'archives et d'expliquer dans une langue relativement simple, en français, ce que représentait ce document d'archives, quel qu'il soit. Donc, ça pouvait être des lettres, ça pouvait être des ordres aussi, des ordres militaires, la façon dont les soldats pouvaient ou ne pouvaient pas sortir dans les villages. Il y avait des couvre-feux à respecter, des heures très spécifiques auxquelles ils avaient le droit de boire, par exemple, ou de fréquenter les estaminets, qui était le nom des cafés, ou des bars plutôt. Ils buvaient plus du vin blanc que du café, mais ou de la bière d'ailleurs, de la bière coupée. C'était de la bière allégée, la bière...
Avec de la limonade.
Alors là, je ne sais pas, mais enfin, elle était certainement beaucoup moins forte que les bières britanniques, notamment. Il est absolument interdit de vendre des bières très fortes, en fait, pour évidemment essayer de contrôler la consommation d'alcool et puis les états d'ébriété divers et variés dans lesquels certains soldats pouvaient se trouver. Mais donc, juste pour terminer sur ce thème de ce projet pédagogique, les élèves le présentaient dans une exposition en ligne qui est disponible, enfin qui s'appelle Somewhere in France, qui est liée liée à l'université. Et donc ces élèves présentaient leur travail en ligne. Et à partir de ça, au bout de 3 ans, avec ma collègue des archives avec qui j'ai travaillé et collaboré depuis le début, on s'est dit, mais vraiment, il y a matière. C'est vraiment une belle et une émouvante histoire à raconter. Il faut vraiment aller au-delà de cette exposition en ligne et présenter quelque chose beaucoup plus tangible. Et c'est donc cette exposition qui ouvre jeudi, oui, le 11
mars, et qui va durer jusqu'au mois de juin.
Voilà, exactement. Donc ce sera l'occasion. C'est une exposition qui est gratuite, qui est au premier étage de la bibliothèque de Bellevue. Donc c'est sur le campus de l'université. La bibliothèque de Bellevue est la bibliothèque principale du campus. Et donc c'est tout à fait libre d'accès. Il faut juste s'assurer que les heures d'ouverture de la bibliothèque correspondent aux heures de visite. Et voilà, vous pouvez y aller et vous immerger dans ce monde.
Et il y a quelque chose comme une douzaine de thèmes que vous abordez dans cette exposition. Quel a été l'intérêt des étudiants de français pour mettre tout ça en place?
Alors, disons que cette exposition... telle qu'elle est présentée, quand même, il y avait une personne qui était en charge, un curateur ou une conservatrice, merci, qui était là pour mettre en forme les différents thèmes et puis qui a bien sûr l'expérience de mettre en... de transformer visuellement ce qui aussi, c'est vrai qu'une lettre, bon voilà, une lettre d'un soldat qui dit que c'est très bien et très intéressant en classe, mais il faut qu'il y ait un aspect qui soit un petit peu visuellement stimulant et qu'une mise en contexte qui permette vraiment de comprendre pourquoi cette lettre est importante et qu'est-ce qu'elle représente dans l'expérience de ces soldats touristes, dans le sens où pendant leur période...
C'était l'aventure pour les Australiens.
C'était l'aventure, et c'est vrai aussi que ces soldats, une fois qu'ils étaient en permission, ne pouvaient pas rentrer comme les soldats français dans leur famille, ou les soldats britanniques même. Donc en fait, lorsqu'ils étaient en permission, que faisaient-ils? Ils partaient à Paris, ils visitaient les grands lieux touristiques
que
nous connaissons, Montmartre, Notre-Dame, les Folies Bergères. Nous avons des menus et des programmes souvenirs. Et c'est ça aussi qui est tout à fait fascinant, intéressant, c'est que ces soldats, leur démarche était de garder, c'était quelque chose de très important, ces souvenirs de guerre, pour les partager et partager ces moments qui sont peut-être plus facilement racontables, même s'il y avait une certaine autocensure dans aussi ce qu'ils dévoilaient à leur famille dans leurs occupations touristiques. Mais disons que c'est beaucoup plus facilement racontable pour un public qui ne connaît pas la guerre, ni les atrocités et les difficultés, les conditions vraiment terribles et difficiles dans lesquelles ils vivaient. Donc c'était vraiment un aspect de leur expérience qu'ils partageaient très facilement. Et on retrouve ça dans leurs lettres, dans leurs journaux aussi de bord, où ils parlent, ils s'émerveillent de la moindre petite fleur qui pousse après l'hiver. Parce que bien sûr, l'hiver, on pense à boue, on pense à froid, on pense à humidité, on pense aux maladies, on pense aux poux, aux puces. Enfin bon, tout ce qui est vraiment
toute la gamme associée avec cette époque.
Voilà, exactement. Et donc, pour eux, tout d'un coup, de voir ces pâquerettes qui fleurissent, les fleurs qui reviennent, c'était vraiment la vie qui reprenait... forme, et peut-être même une façon de montrer que la vie prenait le dessus par rapport à ce paysage complètement dévasté qu'il voyait et qu'il subissait pendant toutes ces périodes. Et de la même façon, donc de la moindre petite fleur au grand monument, les incontournables de Paris ou de Londres aussi, bien sûr. Hein. Les soldats partaient à Londres, à Blighty, comme ils l'appelaient dans leur langage des tranchées. Et donc, ils rencontrent là de la famille, des amis, et puis il s'adonne à une forme de tourisme qui est là encore assez intéressante et étonnante, puisqu'on n'associe pas le tourisme non plus à la Première Guerre mondiale en général.
Et j'imagine que vous avez eu vous-même l'occasion de visiter ces endroits comme Villers-Bretonneux,
oui,
Pozières et Fromelles et tout
voilà.
Ça. Et donc nous arrivons vers le centenaire de ces deux batailles, Pozières et Fromelles, en juillet 2016. Si on faisait un petit tour et peut-être nous parler un petit peu des thèmes qui sont abordés dans cette exposition.
Je découvre un petit peu en même temps avec vous, puisque l'exposition vient vraiment de prendre forme pendant le week-end.
Donc les photographies, les images et les lettres viennent des archives de l'Université de Melbourne.
Voilà, alors une grande partie viennent des archives et de diverses collections qui sont disponibles à l'université. Et puis nous avons aussi rajouté des éléments ou des photos qui sont peut-être gardées qui viennent du Australian War Memorial, par exemple. Ouais. Donc, si je peux vous amener un petit peu par là. Alors, quel est ici, c'est là. Voilà, alors ici, on est dans le thème du loisir et de ce que les soldats donc, faisaient lorsqu'ils ne se battaient pas. Donc, nous avons ici une collection de dessins. Donc, les soldats, une des grandes activités qu'ils faisaient pour s'occuper, c'était en fait de s'adonner à la correspondance. Donc, ils écrivaient beaucoup à leur famille et ils attendaient vraiment avec beaucoup d'impatience ces lettres qui revenaient. Mais c'est vrai aussi que certains se sont mis à dessiner, à faire des croquis de villages, de prendre en compte un peu cet aspect un peu pittoresque de ces villages français avec le clocher parmi les bordées d'arbres, de certains moulins que l'on peut voir de fermes ou de maisons un petit peu plus cossues qui, en effet, ne faisaient absolument pas partie du paysage australien et donc qui étaient une source de curiosité pour eux-mêmes. On peut voir aussi ici une photographie de soldats qui sont en train de faire...
Du footy.
Voilà, où c'est je crois que c'est plus du rugby. Et donc, il y avait des rencontres sportives qui avaient lieu entre les soldats australiens, entre eux, mais aussi des fois, bien sûr, avec d'autres régiments. Donc, il y avait aussi les Britanniques ou éventuellement des Français aussi. Donc, c'était vraiment l'occasion de se détendre, de s'amuser, de se rencontrer aussi et puis de passer le temps. Il y avait aussi dans ce programme, vous pouvez voir des soldats qui ont gardé vraiment précieusement des programmes de concerts. Donc, c'était l'occasion pour eux de sortir, d'aller voir. Là, vous avez un exemple de Carmen qui avait eu lieu, celui-là, donc de cet opéra.
Peut-être à l'hôtel de ville de Rouen.
Ah oui, c'est possible à Rouen, oui, parce que Rouen était une des bases arrière de l'armée australienne. C'était là que l'armée fabriquait le pain de façon tout à fait étonnante. L'armée australienne donc avait ses propres boulangeries et le pain était envoyé chaque jour sur le front. C'était là aussi qu'il y avait un hôpital australien assez important et d'autres hôpitaux britanniques, mais un hôpital aussi australien.
Il y avait beaucoup d'infirmières australiennes sur le front ?
Alors, il y en avait un certain nombre. Enfin, les infirmières étaient en général plus dans les hôpitaux, donc un petit peu plus à l'arrière. Oui, c'est vrai que leur proportion était beaucoup moins importante que le nombre de soldats qui étaient partis en tant que volontaires. Mais en effet, on trouve aussi ces infirmières. Mais on a beaucoup moins d'informations dans cette exposition, puisque finalement, les archives que nous avons reçues sont plus des archives liées à des soldats, en fait. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. C'est vrai que dans le petit film dont on parlera peut-être tout à l'heure, nous avons l'expérience ou nous avons l'histoire d'une grande famille, les sœurs Armitage, qui faisaient partie des grandes familles de Melbourne. Elles habitaient dans la Como House, que vous connaissez sans doute, et en fait, elles se sont portées volontaires. Elles n'étaient pas infirmières en tant que telles, mais elles étaient plus aides-soignantes ou gardes-malades, où elles apportaient un certain niveau de réconfort et de soutien aux soldats pendant la guerre. Donc c'est vraiment elles, à travers elles, que l'on peut un peu parler de cette expérience des femmes sur le front. L'exposition ouvre le 11 mars. Il y a aussi un programme, tout un programme en fait, qui va être mis en place pour coïncider donc avec l'ouverture de cette exposition. Nous commençons la semaine prochaine, donc c'est le jeudi 17 mars. Nous avons une présentation publique, hein, public lecture, qui aura lieu à l'université à 18h, et ce sera l'occasion d'écouter Martin Lyons, qui a travaillé sur la correspondance des soldats français et italiens pendant la guerre. Et ce sera l'occasion un petit peu de faire le pendant à ce que donc cette exposition montre, puisqu'on part de la correspondance et des journaux et de l'expérience des soldats australiens. Donc lui nous parlera des soldats français et des soldats italiens. Et le lendemain, le vendredi 18 mars, nous aurons une journée d'études qui, elle, peut-être est un petit peu plus pointue, mais qui se concentrera sur les écrits ordinaires de la guerre. Donc ordinaires, là encore, on pense à la correspondance, on pense aux journaux, mais on pense aussi, par exemple, aux journaux des tranchées, et encore aussi aux débats qui ont pu avoir lieu dans la société civile. Donc non pas les grands articles écrits par des journalistes, mais plus l'opinion publique liée à certains éléments un peu conflictuels dans la société. Et donc ce que les gens disaient, ce que les gens pensaient et la façon dont c'était exprimé. Voilà, et toutes les informations peuvent être trouvées sur le site de l'université. Je pense que si vous faites Somewhere in France,
on vous emmène sur le site de l'exposition.
Voilà, très bien. Donc toutes les informations sont disponibles en ligne.
Merci à vous, Diane.
Vous êtes avec Radio SBS en français.